Aujourd'hui, la masterclass de Charlélie Couture avec Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue à vous, Charlélie Couture. Je suis ravie de passer l'heure avec vous, l'heure qui vient en votre compagnie. Alors cette masterclass, vous allez nous raconter et nous expliquer comment vous construisez votre œuvre, c'est-à-dire comment vous la fabriquez de l'idée jusqu'à sa réception critique et publique en passant par votre méthode de travail. Et nous n'aurons pas trop d'une heure puisque vous vous définissez comme un artiste multiste. Pour en revenir sur ce terme, vous êtes à la fois poète, peintre, sculpteur, chanteur et photographe. Et l'on vous doit, je donne quelques chiffres, vous pouvez me corriger si peut-être j'en ai oublié, 25 albums, 1500 concerts donnés à travers le monde, une vingtaine de bandes originales de films, plus d'une quarantaine d'expositions de Paris à New York, dont une rétrospective en 2014 à Nancy, où vous êtes né.
Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Il y avait déjà une centaine avant que je parte à New York, une quarantaine depuis New York.
Donc là, on arrive à 200 à peu près.
Oui, enfin.
150, 200. Alors j'ai compté 18 livres.
On va pas chipoter quoi.
J'ai compté 18 livres, à peu près une vingtaine de livres.
Oui, peut-être. Oui.
Dessins, poésie, voyages, sans parler de multiples textes que vous publiez sur votre site. Alors on y trouve des poèmes, un journal, des confessions. Une des premières questions que l'on peut être amené à poser dans ce genre de masterclass, c'est pourquoi avez-vous choisi une forme d'art plutôt qu'une autre ? J'ai plutôt envie de vous demander, Charlélie Couture, pourquoi n'avez-vous pas choisi une forme d'art plutôt qu'une autre ?
Ah ben ça, c'est la question, elle m'a été posée dès les Beaux-Arts. Un de mes professeurs qui s'appelait Gérard Thon, qui avait été pris de Rome, un jour était venu me voir sur scène et il me dit le lendemain quand je le retrouve. Il m'a dit donc c'est déjà vachement abouti ce que tu fais en tant que chanteur. Un jour il va peut-être falloir que tu choisisses. Et je lui dis peut-être qu'un jour il faudra que je choisisse. Est-ce que tu crois que si aujourd'hui je ne faisais que ça, mon travail de peintre y gagnerait? Eh bien, c'est difficile de te dire ça, parce que tu en fais déjà plus que tout le monde. Rien que dans le domaine de la peinture, on a du mal à imaginer que tu puisses faire ça en plus. Alors j'ai dit, peut-être qu'un jour je devrais choisir, mais tant que l'un stimule l'autre et réciproquement, je vois pas pourquoi je me couperais un bras, quoi, sous prétexte qu'il y en a qu'un seul qui travaille. Donc... En fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée de préciser l'idée du multisme et de la pluridisciplinarité. On est dans un monde qui croit que l'efficacité, c'est dans la réduction. Moi, je crois qu'il y a une interaction entre les différentes parties du cerveau. Et je me suis rendu compte plusieurs fois que quand dans une même journée, je passe d'une activité à une autre, même si j'ai passé du temps à écrire pendant, par exemple, 4 heures dans l'après-midi, je peux aller peindre et je suis tout frais comme un gardon pour aller peindre et ainsi de suite. Et je peux faire des choses sans pour autant l'une nuise à l'autre. Alors, je sais que pour les gens, ça paraît plus simple et qu'on ne fasse qu'une seule chose. Et il y a des gens qui disent « bon à tout, propre à rien ». Et le fait d'avoir des activités éclatées a quelque chose d'inquiétant, en fait, parce que on pense en théorie que si on ne fait qu'une chose, on la fera converger vers son point culminum, comme quand on cerne le faisceau d'une lumière pour en faire un laser. Ouais, mais on peut aussi dire que quand le faisceau de lumière il arrive dans le prisme d'un cristal, il redevient un arc-en-ciel qu'on ne verrait pas sinon. Et moi, je suis un peu dans cette idée-là.
Et c'est la définition du multisme.
Le multisme, en fait, c'est le fait d'essayer d'évoquer l'idée qu'il y a une différence d'abord entre le fond et la forme, entre le comment et le pourquoi. On associe souvent l'art à une manière, Alors que moi, je crois que l'art dépend beaucoup de l'intention qu'on a mise. Et quand on a une intention, on trouve la manière qui va... Il y a des gens qui sont des purs autodidactes qui ont fait des œuvres importantes parce qu'ils ont trouvé la manière qui leur était propre pour exprimer ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux.
Alors que vous, si je comprends bien, Charles-Élie Couture, vous avez d'abord une intention, une idée, et après un médium qui s'impose pour exprimer cette idée.
C'est exactement ça. Ça part toujours du frémissement d'une feuille, de presque rien. L'inspiration, c'est pas un coup de poing dans la gueule divin, hein. C'est à peine un frôlement sur l'épaule. L'inspiration, c'est un état d'alerte. Il faut vraiment être disponible pour entendre ce petit frémissement qui est là. C'est Peter Handke qui disait que l'inspiration naît de la rencontre entre la sphère privée et la sphère publique. Donc, quand on est dans son univers, et puis tout d'un coup, on est confronté à d'autres choses. Donc, il se peut que dans la rencontre de l'un avec l'autre naisse quelque chose. Mais cette chose qui va naître, c'est encore une fois à peine visible. Et si on n'est pas disponible pour le capter à ce moment-là, c'est pour ça que j'en colle plein des carnets, j'en ai plein mon ordinateur, des idées, des chansons commencées qui n'aboutissent pas, des bouquins, je pense que j'en ai à peu près une vingtaine de commencées et qui ne parce que soit il m'a manqué le temps, soit parce que j'étais interrompu, soit parce que je suis parti sur autre chose. Encore une fois, il faut qu'on ait à l'intérieur de soi cette espèce de quasi nécessité de finir quelque chose qui pourtant ne semble pas si évident que ça. Je veux dire que si c'est évident, ben c'est de la communication. On va faire quelque chose qu'on doit faire. C'est un acte obligé. Mais l'acte artistique, il naît du goût de faire apparaître l'invisible. On est dans une société pragmatique, matérialiste, extrêmement efficace, et qui tend à faire que tout serve. Ouais, c'est vrai pour une partie du cerveau, mais l'autre partie du cerveau, elle est dans l'indéfini et dans l'émotivité, et donc on va avoir des boulots très très carrés, et puis un beau jour on est licencié, on est face à soi-même, et là on se retrouve à devoir se poser des questions existentielles pour lesquelles on n'a aucune réponse toute faite. Donc là, à ce moment-là, peut-être bien content de rencontrer des artistes ou des gens qui justement t'ont parlé
de rencontrer une chanson, un texte.
Voilà, un film, un texte, une chanson, une musique qui va tout d'un coup te transmettre ou te dire des choses. Entre guillemets, indéfinissable.
Quel artiste a joué ce rôle pour vous, Charles-Élie Couture ?
Mais il y en a eu beaucoup. Ça a commencé certainement par Jean Cocteau, par exemple. Le fait de voir un artiste qui avait un tel, je dois dire, sa poésie m'emmerdait un peu, mais ses films, je trouvais absolument prodigieux, et un inventeur pour le cinéma du niveau de Méliès, quoi. Et pourquoi? Bah parce que justement il y avait un décalage par rapport à la méthode, entre guillemets. Picasso à sa manière, dans le fait de ne jamais se satisfaire d'un état d'être. Andy Warhol, dans le fait de considérer que la factory, ce qu'il avait monté autour de lui à New York, dont il était l'axe, mais pas l'acteur principal, mais qui avait regroupé autour de cette dynamique de l'inachevé des années fin des années 60, début des années 70 à New York, une énergie qui était folle et qui était très intéressante, dans laquelle justement il n'y avait pas de limite. Le cinéma rencontrait la photographie, qui rencontrait la dramaturgie, qui rencontrait la peinture, qui rencontrait etc. Il n'y avait pas le côté une seule poignée à la valise, quoi, tu vois.
Comment ça a commencé pour vous, la découverte de l'art? Alors peut-être par certaines figures comme Cocteau, mais quel a été votre premier rapport concret à l'art? Alors, j'ai entendu dire que, vous allez peut-être m'arrêter, que vous aviez rencontré la peinture quand vos parents vous avaient offert des pinceaux en poils de martre.
Ah oui, ah ça c'était, j'étais à l'école maternelle.
Ça c'est votre premier rapport concret à l'art de la, à la peinture.
Non, il commence avant. Quand j'admire mon père qui les dimanches dessine des aquarelles. Mon père a fait des études d'architecture, interrompu par la Gestapo, torturé, envoyé en camp de concentration. Quand il est revenu, il a eu la chance de revenir 9 mois plus tard, puisqu'il était dans le dernier train. Il pesait 44 kilos pour 1m84. C'était donc un squelette vivant. Et il est revenu se refaire une santé chez ma grand-mère. Mère et qui habitait dans l'Est, donc chez sa mère. Et là, il est devenu professeur d'histoire de l'art et ensuite antiquaire décorateur. Et donc, toute ma jeunesse, j'ai été accompagné par lui dans les musées qui me donnaient l'histoire de l'art au fur et à mesure que qu'il s'agisse des lances dans la bataille d'Uccello, qu'il s'agisse du rapport des couleurs chaud-froid dans les tableaux de Ingres, qu'il s'agisse du triangle d'or, etc., etc., enfin du nombre d'or, pardon, dans la composition classique. Tout ça, je le voyais tout de suite en un clin d'œil, même à 8-9 ans, quoi. C'est juste parce qu'on m'avait montré, quoi. Et donc le rapport avec le fait que les choses ont un sens, ça m'est venu de ça. Et comment ça a commencé? Ben, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que en même temps que je faisais des dessins, d'abord, quand je dessinais ou quand je faisais ces choses-là, on me disait: c'est bien, vas-y, continue. On ne disait pas faire autre chose.
On vous encourageait.
Oui, j'étais encouragé, du moment que j'y allais à fond. Et donc, voyant que j'y prenais du plaisir, effectivement, un jour, mon père m'a offert des pinceaux en poils de martre. Et alors là, du coup, moi, je pouvais faire des traits... qui barbait pas, j'avais en plus un gros tube de gouache blanche alors que les autres ils avaient qu'un petit tube de merde et eux ils arrivaient pas à faire du blanc alors que moi j'arrivais avec mon... Donc c'est bête, mais après j'étais très fier de sortir mes poils de martre, si je puis dire. Et donc tout ça a fait que je me sentais je me sentais bien. Quand il fallait faire un dessin, j'en faisais 5. Et alors, bien sûr, il y avait des gens qui me disaient: mais fais-en moins, il vaut mieux en faire un seul bien que 5 pas bien. Ben non, moi je pense qu'il valait mieux en faire 5 pas bien que un léché et puis sur lequel on avait pleuré tellement on s'y était ennuyé. Moi, je m'amusais et j'ai toujours essayé de considérer mon activité si comme à la fois quelque chose de sérieuse, parce que c'est nous dans ma famille, la culture c'est quelque chose de sérieux, c'est-à-dire c'était pas une distraction, c'était quelque chose que on peut faire ce qu'on veut du moment qu'on le fait à fond. Donc j'ai été élevé dans cette culture-là, donc à devoir finir mon assiette et à finir un dessin que j'avais commencé
et avec le même appétit.
Et avec la même, la même joie, c'est vraiment important de parler de joie. Donc, et en fait, comme j'avais commencé à faire des choses dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts visuels et de l'écriture, ben j'ai simplement continué. Et c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était comme m'arracher un œil de me demander de choisir.
Vous dites aller à fond, aller jusqu'au bout, mais à quel moment savez-vous que ça y est, vous êtes allé jusqu'au bout, on peut passer à autre chose, cette œuvre-là est achevée, cette chanson est finie, cet album est clos, la tournée se finit et je ne vais pas rajouter de date en plus, ou ce poème, et je mets un point final à ce poème.
Alors, c'est effectivement une question qui est vachement intime, très personnelle. parce que les uns vont considérer que ça, c'est fini à ce moment-là, les autres vont considérer que c'est fini à ce moment-là. C'est un choix personnel. J'avais un de mes profs aux Beaux-Arts qui disait, et le prof de gravure qui s'appelait Jacques Alès, qui disait une œuvre d'art est finie depuis le premier trait. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux considérer que tu as fini ce que tu avais à faire, puisque tu es le seul à décider du terme. Mais je raconte ce que, pour moi, entre le lièvre de Dürer, qui est dessiné poil par poil, accroché à une porte, et la colombe de Picasso. Picasso, il a considéré que c'était fini au bout de 30 secondes à peu près, le temps qu'il a fallu pour qu'il dessine ça. Dürer, je pense que c'est un coup de 3 semaines.
Et vous, c'est combien?
Ben, il y a des tableaux sur lesquels je suis revenu pendant plusieurs années et qui ont évolué, que j'ai cru avoir fini, puis je les ai repris, puis je suis revenu dessus, puis je les ai repris. Il y a des tableaux sur lesquels j'ai... C'est pas forcément les meilleurs, d'ailleurs, hein, mais à chaque fois, je me dis...
Et vous arrivez à définir, justement, d'où vient ce... d'où ça vient, le fait... Qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui manque, et est-ce que vous arrivez à dire
oui.
Où vous avez cette intuition-là?
Ben oui, parce qu'en fait c'est beaucoup plus codifié que ça n'y paraît. Particulièrement la peinture, c'est un métier de cuisinier. C'est-à-dire on choisit ses outils, on choisit ses ingrédients, et puis après on va essayer de faire un plat. Et en fonction des voyages qu'on a fait, on va mettre tel type d'épices ou tel type de choisir telle ou telle matière première. Mais ce sur quoi on ne peut jamais intervenir, c'est l'appétit des convives. Donc, ce sur quoi je peux travailler, entre guillemets, c'est ce que je vais proposer aux gens, ma recette, entre guillemets. C'est pour ça que souvent je travaille par série. Je fais des et je me dis si ça marche sur un, ça doit marcher sur deux. Si ça marche sur deux, ça doit marcher sur. Et puis en général, une série, ça peut faire 10, 12, 15 tableaux traités sur la même base, avec les mêmes ingrédients, avec la même thématique et dans la même hystérie entre guillemets, sachant que j'espère toujours me faire dépasser par mon travail. Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a le conscient et l'inconscient. On est, encore une fois, dans une société du conscient. Alors, mon père, comme j'en parlais tout à l'heure, avait fait des études d'architecture. Lui, il fallait que ça tienne debout, quoi.
On sait si ça marche ou pas.
Et il avait un profond respect admiratif pour tout ce qui était artisan et artisanat. Et moi, je défendais le point de vue de l'artiste. Et on a eu une discussion qui a duré plusieurs années sur le thème de l'un ou de l'autre pour qu'on finalement arrive à une définition qui était satisfaisante pour les deux parties, si je puis dire, qui était que l'artisan est un archer et qui a une vision préconçue de ce qu'il va faire. Et donc va donc mettre tout son talent, parce qu'il en faut aussi, bien sûr, pour atteindre le cœur de la cible. Il va choisir son arc, il va choisir ses flèches, il va choisir de le faire en clignant l'œil droit ou l'œil gauche, uniquement les vendredis soirs ou les jours de pleine lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le style. Mais dans tous les cas, qu'il soit proche ou loin de la cible, il doit atteindre le cœur de la cible dont il a une vision préconçue avant de commencer son geste. Ça, c'est pour les artisans. Et les artistes, eux, sont les gens de l'inconscient, c'est-à-dire qui seraient plutôt comparables à des éclaireurs qui partent mus par une intention, mus par une certaine sensation du voyage qu'ils vont faire, mais sans en avoir l'histoire avant que ça ne commence. Dans l'art, il y a la même chose que dans le jeu, c'est-à-dire tu as des règles, mais tu connais pas l'issue, normalement, à moins que tu sois un tricheur, tu connais pas l'issue de la partie avant de commencer, et c'est ça que tu acceptes comme principe dans le jeu. Pour ça, quand on dit jouer de la musique, c'est presque jouer à la musique, en espérant que la musique te sublime.
et qu'elle rencontre un public, voilà, une personne chez elle ou dans le public un soir sur scène qui soit bouleversée.
C'est ça, et on le sait. On peut, si effectivement plusieurs personnes s'y rencontrent, ben peut-être tu vas pouvoir en faire ta profession. Mais même si c'est que peu de personnes, tu peux y trouver une vraie gratification. Quand mes filles étaient petites, il y avait un piano dans leur chambre, et plutôt que leur raconter des histoires, je leur ai raconté des histoires, mais ça m'arrivait assez souvent de les endormir en leur racontant des histoires au piano, dans le noir. La lumière était éteinte et mes doigts jouaient des histoires, racontaient des histoires, et elles s'endormaient dans les musiques. Et d'un soir sur l'autre, quand je posais mes doigts sur le truc, je voyais pas ce que je faisais, et là j'étais bien content d'avoir suffisamment de technique pour pouvoir alterner et faire tantôt quelque chose de grave, quelque chose de rigolo, etc., ou ci ou ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, moi-même, je me racontais des histoires et je laissais mes doigts parler à ma place. Et c'est toujours ce que je fais quand j'écoute un scénario, par exemple, qu'on me donne. Vous avez parlé de... J'ai fait 20, 22 ou 23 musiques de film.
J'ai dit une vingtaine, oui, pour ne pas me tromper.
Ça, c'est dans ces eaux-là. Il suffit que je lise les paroles, et puis je vais commencer à entendre de la musique. Puis après, cette musique que j'entends, que je crois entendre, je vais essayer de la retrouver, de la chercher, lui donner une forme. C'est comme ça que ça marche.
Ce qui est intéressant avec les films, par exemple, avec la musique de film, vous avez composé celle de Ciao Pantin.
Ouais.
On a aussi retenu, peut-être pour certains auditeurs plus jeunes, celle de Toy Story. Ouais. Que vous avez interprété, enfin vous avez interprété la chanson.
J'ai réécrit les chansons.
La version française.
Ouais, c'est ça.
C'est que là, vous ne travaillez pas seul de votre côté. Ah, ça ouais. N'est pas le bruissement, le frémissement, pardon, d'une feuille, pour reprendre votre expression, qui ouais. vous inspire. Ce sont des commandes. Vous travaillez pour d'autres que vous.
Ah ben, je peux te raconter une anecdote. Je travaillais avec John Lvoff sur un film qui s'appelait La salle de bain, et c'était un film en noir et blanc. Et j'avais donc commencé à enregistrer la musique. Un soir, je vois John, je lui fais entendre. J'étais très content de lui faire entendre ce que j'avais fait. Et je sens qu'il y avait quelque chose qui l'embarrassait. Et dans le courant de la discussion, j'avais pas vu les images. Hein, j'avais composé sur le scénario en me faisant les images en noir et blanc. Et dans la discussion, à un moment, il me dit « Mais attends, c'est pas un film en noir et blanc, c'est un film en blanc et noir. » Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'était pas un film de nuit dans lequel il y avait des brillances qui apparaissaient de lumière ou de reflets, etc. C'était un film de jour dans lequel les ombres étaient dessinées avec une lumière blanche. Donc j'ai dit, ah d'accord, ok, donc il faut que je change les instruments, c'est-à-dire au lieu de le faire jouer par des cuivres et des instruments brillants, il fallait le faire plutôt avec des instruments secs, c'est-à-dire des hautbois, des clarinettes, le même thème joué avec des instruments chauds plutôt que des instruments brillant, ça changeait tout à fait la perception. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une musique de film, c'est comme la surface au sol. C'est-à-dire, on marche dessus, et puis ça induit le confort, si c'est de la moquette ou du gravier ou des planches ou des dalles ou de la tomette, on va pas forcément se comporter de la même manière. Ben, la musique de film, c'est un petit peu pareil. Selon que les personnages vont dire leur texte sur une musique moelleuse ou au contraire une musique humide ou sèche, eh ben le propos va être très différent. Mais encore une fois, ça c'est un travail très particulier. J'en fais pas beaucoup. Je me suis régalé il y a 2-3 ans en faisant les musiques de films de Vincent Munier, et qui étaient des documentaires animaliers. Absolument passionnant, parce que là justement j'avais des
mais alors là vous avez fait comment plages. On vous dit documentaire animalier, vous pensez à quoi en termes de composition?
Faire bouger une marmotte, c'est rigolo, non?
Et alors, vous pensez à quoi comme musique quand on vous parle de faire bouger une marmotte?
Ah ben,
ça vous évoque quoi tout de suite?
Je te dis si bémol do fa, si bémol do fa. Ça, non, c'est pas comme ça. C'est question de timbre. Quand le film était tourné dans les hauts plateaux de, c'était d'Abyssinie, je crois. J'avais composé des blues qui étaient des comme il y avait ils se déplaçaient dans des endroits arides, une espèce de blues malien un peu sec comme ça, et à jouer sur des résonances, rejouer. Enfin, il y a plein de trucs.
Vous avez parlé des Beaux-Arts, c'était dans les années 70, milieu des années 70.
Fin des années 70, oui. Puisque j'ai dû sortir en 79, 80, un truc comme ça, 79 je crois.
Après, c'est au début des années 80 qu'est sorti votre grand tube Comme un avion sans aile dans l'album
Deux
Poème
ans
Rock.
De gloire, ouais.
Et puis après, vous avez continué à faire de la musique tout le temps, mais il y a eu aussi beaucoup plus de place accordée à la peinture, il me semble, beaucoup plus d'expositions à partir de la fin des années 80, dans les années 90. En 2000, dans les années 2000, vous avez déménagé à New York.
Absolument, oui, dont je viens de revenir, en fait.
Est-ce que vous arrivez à tracer, à travers toutes les collaborations dont vous avez parlé, toute cette absence de frontières entre les arts, un fil directeur à travers toutes ces grandes étapes de votre parcours ?
Ah, mais bien sûr, oui, oui. Moi, je travaille avec depuis un an et demi avec un biographe qui s'appelle je vous le donne en mille, David Desvérité. Donc, c'est ce qui est formidable, en qui je peux avoir pleinement confiance.
Comme une sorte de psychanalyste, un peu.
Il m'oblige à revisiter des séquences qui étaient un peu enfouies dans ma mémoire par le fait, quoi. J'avoue que je suis souvent un peu comme le marcheur qui est au bord d'une dune et qui a le sentiment que ça s'effondre derrière lui et qui ne peut pas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, je ne fais pas partie des nostalgiques qui ont les yeux dans le rétroviseur, parce que pour avoir fait de la moto assez, je sais que dès qu'on regarde là, on risque de se manger le truc qui arrive devant. Donc, si on veut continuer à avancer, faut rester en projection. Mais le travail que je fais avec David m'oblige à me replonger dans ce que j'ai été et donc dans ces périodes.
Et à découvrir une sorte de fil conducteur alors à travers plusieurs étapes très différentes.
C'était ce que il est retombé sur des textes que j'ai écrit dans les années justement en 81 à peu près, qui était une réponse à Claude Fléhouter qui avait fait un papier dans Le Monde qui évoquait mon apparition, si je puis dire. Et en fait, ce texte que j'avais écrit sur les raisons qui poussent à écrire, sur ce que c'est que le rock, à quelques virgules près, je dirais la même chose aujourd'hui. Je suis beaucoup plus cohérent qu'il y paraît. Et le fait d'avoir une activité sur trois fils à ma tresse m'empêche pas d'avoir une vie solide.
Est-ce que vous faites référence, Charles Lécouture, au manifeste de l'art rock?
Ah, il y a eu ça aussi, oui.
Alors, le manifeste de l'art rock, il y a une phrase que vous avez mis en exergue sur votre site qui est « L'art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop ».
Oui.
Vous pourriez toujours le dire maintenant?
À peu près, oui, parce que en fait, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le fait du conscient et de l'inconscient de la société industrielle. C'est l'effroyable pragmatisme d'une société qui a donné comme illusion que la finalité, c'était d'être riche. Donc, on voit où ça nous mène aujourd'hui, c'est-à-dire à des échéances extrêmement courtes, et d'oublier qu'il faut écouter le vent siffler et regarder passer les nuages, c'est terrible. Hein. On voit où ça nous mène, burn-out sur burn-out, c'est pas enviable. Hein. Donc, d'un côté, il y a cette société-là qui a voulu servir d'exemple. Et puis, de l'autre, il y a la culture populaire, disons la culture de groupe, qui se réjouit de partager ensemble un même repas. Pourquoi les gens aiment aller au concert? Parce qu'il y a une complicité qui s'établit les uns avec les autres et qui n'est pas forcément liée à la notion exclusivement de profit et de domination de l'un par l'autre. Donc oui, l'art essaye de faire la jonction entre ces deux choses-là. Moi, je crois en un Dieu seul et unique, l'art.
Est-ce que vous diriez, Charles Lécouteur, qu'il y a eu des tournants dans votre parcours, des moments où vous êtes, des moments de rupture, des moments de questionnement, où vous avez dit ça, je ne veux plus le faire comme ça.
Ah oui, oui, clairement. Heureusement d'ailleurs.
Par exemple.
D'abord, pendant longtemps, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne faisais pas la fois d'avant.
Donc une œuvre se crée en réaction à la précédente.
Oui, oui, presque. Et à l'instant où quelque chose était fini, je dis, attendez, tu vas voir, le prochain, ça va être encore autre chose. Sauf que c'est comme ça que je me suis tiré des balles dans le pied, parce que à un moment donné, les gens étaient perdus hein, sans savoir. Mais parce que à ce moment-là, je plantais les poteaux de mon périmètre. Une fois que j'ai eu fini de planter tous les poteaux, ben j'ai commencé à refaire le tour et en précisant les choses. Et j'ai l'impression que les disques, par exemple, dans le domaine de la musique que je fais depuis que je suis à New York, me ressemblent encore plus que ceux que je faisais quand j'essayais des choses en disant est-ce que ce serait pas un peu ça, est-ce que ce serait pas un peu ça. Je me rappelle d'un disque, le premier disque d'ailleurs que j'ai fait à New York, qui s'appelait New Yorker et qui était encore dans cette idée de programme, c'est-à-dire que je concevais les disques en disant il faut qu'il y ait, s'il y a une chanson douce, il faut qu'il y ait un rock méchant derrière, il faut qu'il y ait un rap derrière, il faut qu'il y ait ceci.
Toujours dans la contradiction.
Voilà, pour me remettre en cause et jamais m'endormir. Et puis à un moment donné, les gens écoutaient et je me rappelle une anecdote entre nous où je faisais une émission et à France Inter et arrive le groupe Justice qui était en naissant à ce moment-là. Eux me connaissaient pas, ils me disent qu'est-ce que tu fais. Je dis il y a un retour au rock effectivement parce qu'il y avait des chansons rock, une chanson par exemple, même à Spielberg on a dit non, qui était vraiment rentre dedans et tout. Non, je retourne au rock à quelque chose. Bon, et là ils choisissent comme extrait, attends, savoir pourquoi, la chanson la plus douce de l'album. Oh, je passais pour un con. Jamais plus je donnerai l'occasion d'un argument comme ça.
Oui, mais en même temps, ça rejoint parfaitement ce que vous aimez être aussi, à savoir quelqu'un dans la contradiction. Vous dites, je fais du rock un peu rugueux, et oui. Puis derrière, on entend une chanson un petit peu douce.
C'est vrai, mais il m'aurait quand même été plus facile...
Plus crédible.
Plus crédible, tout à fait, que le programmateur passe la chanson qu'on avait dit, plutôt que faire me mettre un truc sous le pied. Mais bon ça arrive, hein. Et on s'en relève, mais d'autant que la chanson était jolie hein, aussi. Mais depuis ça, j'avoue que j'ai petit à petit diminué le diamètre de mon cône, si je puis dire.
Et alors, vous êtes recentré plus sur quoi ? En musique, par exemple ?
Oui, oui. Quand les gens me demandent ce que je fais, je dis poétique rock blues. Voilà. Et en gros, ça me va comme et ça fait une bonne base. Même si là-dedans, il y a des influences cajun, il y a des influences de musique plus jazz, plus folk, etc. Mais grosso modo, à poétique rock blues, je peux monter un spectacle. Mais il y a 250 chansons, j'ai de quoi choisir. Mais dans le domaine de la peinture, par exemple, petit à petit, j'ai aussi cerné mes questionnements. Et les tableaux que je présente, par exemple, à 7, au musée Paul Valéry, par exemple, sont le reflet des questionnements que j'essaye de formaliser à travers mes peintures. Dans ce rapport, in, out, out, in, par exemple. C'est-à-dire, je pense que, au fond, l'homme est obsédé. Une fois que l'homme a réglé les questions de la nécessité, de la survivance, boire, manger, dormir, être en bonne santé, il se pose un jour la question du pourquoi il est sur Terre. Et à cette réponse, qu'est-ce qui me prouve que j'existe ? Il y a deux manières de répondre. Une première théorie que j'appelle la théorie du reflet, qui dit que quand tu te retrouves, tu te reconnais dans la glace, c'est que tu t'aperçois que t'es pas simplement une idée, mais que tu vois, tu bouges le bras, ok, tu te reconnais. Donc ça te rassure et tu sais que t'existes. Et l'autre théorie, c'est celle de l'empreinte. Il n'y a pas de marque devant, il y a des marques derrière, donc
je suis là.
Et
en fait, vous êtes un petit peu Descartes.
Et dans la mesure où ces deux théories sont radicalement différentes, opposées. Il y en a une qui dit j'existe dans quelque chose qui me préexiste. Le miroir, il est là, que je sois là ou que je sois pas là. C'est-à-dire une œuvre ou quelqu'un à travers qui tu vas te reconnaître, mais qui existe, que tu sois là ou que tu sois pas là. Quelqu'un, une œuvre ou n'importe quoi. Donc c'est donc l'autre qui me donne le sentiment d'exister. Dans la théorie du miroir. Dans la théorie de l'empreinte, elle dit « Je suis l'auteur de ma propre existence, responsable de ma propre existence. » Comme l'homme préhistorique qui, un jour, trempe sa main dans une flaque d'argile, la pose sur une paroi et invente en même temps l'écriture, la peinture et la psychanalyse, l'expression de l'ego, on va dire. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaye d'évoquer à travers ces silhouettes dans lesquelles il y a un personnage intérieur qui existe par lui-même ou qui existe en relation avec son environnement. Voilà.
Dans vos peintures?
Dans mon travail de peintre, oui. Donc, tu me demandes à quoi je suis arrivé, ben voilà par exemple des choses à quoi je suis arrivé.
Sur quoi, oui, sur quoi votre travail, votre art s'est recentré, c'est plutôt ce genre de questionnement là autour de
voilà.
Comment on pourrait définir qui je suis.
Je crois que qui qu'on soit, et à tout moment, on s'interroge sur ce qu'on est. Hein, mais il y a des moments où on a autre chose à faire.
Mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, Charles Licouture, c'est à la fois le degré d'abstraction de vos questionnements sur la vie. Enfin, je veux dire, vous partez toujours de questions très philosophiques, et quand vous parlez de votre art, vous êtes très concret. Et il y a toujours ce double discours qui évolue
évidemment
côte à côte, mais très. Par exemple, vous parlez de peinture comme de cuisine, c'est très frappant. Vous ne cessez de vous interroger sur l'art en parlant du côté artisanal aussi. Vous parlez de l'empreinte dans le sol, qui est quelque chose de très matériel, très concret, très physique.
Oui.
Et c'est assez frappant chez vous que les deux registres se côtoient et s'imprègnent autant.
Absolument, c'est en ça que, si tu veux, quand j'écris mes chansons, par exemple, j'essaye toujours de faire qu'elles soient, entre guillemets, partageables. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui décrivent les sentiments par des sentiments. Il était bien, il n'était pas à l'aise, ça n'allait pas, il n'était pas bien dans sa peau, etc. Pour moi, ça ne dit rien. Alors, pour évoquer ça, je vais plutôt dire, il éteignait sa clope à côté du cendrier ou il a lâché son verre parce que il tremblait. Et là, on va comprendre qu'il est. Donc, effectivement, c'est du concret. Et de même, quand on est face à un tableau, et, ça commence par un choix d'outils. Ça commence par un choix de un certain nombre d'ustensiles quoi. Donc il y a pas de mal. J'ai souvent dit que je voulais être comme un barman qui fait des cocktails. Les gars, toute la soirée, il va faire des cocktails et les gars, ils vont se bourrer la gueule devant lui et lui va pas en boire une seule, mais il sait que ce qu'il fait, c'est bon. S'il est bon. S'il n'est pas bon, tant pis. Hein.
Oui, mais ils vont quand même être ivres.
Je voudrais ressortir à propos de ça une histoire que sur l'inspiration qui m'avait été racontée à propos de Tom Waits. Et Tom Waits, oui, qui est Tom Waits. Et il était au volant de sa bagnole et il y a une belle idée qui lui vient. Et non. Alors il la chante. Il sait qu'elle est bien. C'est une super idée. Et alors il conduit, il est tout seul dans sa bagnole, et puis il doit se rendre à un mariage, je sais pas quoi. Et alors, en même temps qu'il conduit, il essaye de voir s'il peut choper un magnéto ou quelque chose pour noter ça, parce qu'il sait que, putain, ça les idées, ça rentre, mais ça ressort aussi vite. Les idées, c'est comme des papillons, hein, ça vient, ça s'envole. C'est comme les trains dans une gare, ça arrive, ça s'arrête, ça redémarre. Et donc il a cette idée et il sait que ça va s'arrêter. Et il est très embêté parce que il sait que putain ça va disparaître, ça partir. Et en fait il est tellement embêté qu'à un moment donné il garde sa bagnole, il se tourne vers l'au-delà et il dit trouve quelqu'un d'autre, j'ai autre chose à foutre.
Ça vous est déjà arrivé de perdre une idée comme ça?
Oh, oui,
de
oui.
Vous dire, oh, j'avais l'idée géniale et vous n'arrivez plus à remettre la main dessus?
Ah oui, oui, mais géniale, je ne sais pas si elle était géniale, mais...
Une idée en tout cas.
Ah oui, oui, je sais qu'il y a des gens, et j'en fais aussi partie, qui dans la nuit, dans le silence de la nuit, dans la semi-conscience ou la phase intermédiaire du sommeil, vont tout d'un coup être libérés d'un certain nombre de contraintes et vont se trouver face à des évidences. Et si tu notes pas cette évidence tout de suite, le lendemain matin, tu peux toujours la rechercher, et elle va disparaître. Alors,
c'est comme vous disiez, être dans un état de disponibilité au frémissement d'une feuille.
Et alors, j'ai des carnets, je ne sais pas si j'en ai sur moi, mais dans lesquels...
Si moi j'en ai vu dans les coulisses, voilà.
Voilà, j'en ai deux, là, par exemple, aujourd'hui... dans lesquels il y a à la fois des jeux de mots, des blagues, des idées, des numéros de téléphone, enfin c'est tout ça, la création, c'est simplement il faut le faire. Et est-ce que là-dedans il y a quelque chose de génial? Oui, peut-être.
Et ça se trouve vous avez dans vos tiroirs tout un tas d'idées
même
géniales.
Même à mots, il y a des bons mots qui font mal.
Ça c'est ce que vous avez écrit, que vous êtes en train de lire?
J'y peux rien. Non. Je sais pas, un jour j'ai écrit ça. Oui.
Tournez une autre page et dites-nous ce qu'il y a.
Mais ça, c'est autre chose. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Bon. Oui, mais il faut des légumes frais.
Oui, c'est même des blagues parfois.
Tu vois,
oui.
Ça peut être. Ah non, mais alors là on touche sur le. Bouffer des kilomètres, bon appétit. Hein? Déposez votre argent au saltimbanque. Bon.
Oui, vous notez tout ce qui vous semble.
Je t'ai pas dit que c'était forcément génial à tout coup, mais.
Mais finalement, vous tombez dans la situation inverse de celle de Tom Waits, c'est-à-dire que vous notez tellement toutes les idées que.
Ça, c'est ceux qui sont notés. Je te dis pas ceux qui sont pas notés.
Mais oui, mais j'imagine déjà tous les carnets en fait que vous avez chez vous ou même dans ce carnet-là. Ça se trouve, il y a des idées géniales que vous avez laissées de côté, oubliées même.
Et génial, ça c'est la. La preuve que non, puisque pour que ce soit génial, il faut que ce soit les autres qui le disent, et les autres ne le sauront jamais. Donc, tant pis, c'est perdu. Heureusement qu'il y a des choses qui disparaissent.
D'ailleurs, est-ce que vous avez, je peux le dire, en fait, on s'est parlé au téléphone avant cette rencontre.
Oui.
Je vous ai demandé s'il y avait peut-être des chansons, des textes ou des peintures sur lesquelles vous vouliez insister. Et vous m'avez dit non, pas du tout. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Il dit de toute façon, parfois, j'oublie même que j'ai créé certaines choses. Alors moi, ça m'a stupéfaite, ça, je dois le dire. Vous avez tellement créé que vous oubliez parfois...
J'espère toujours disparaître au profit de mon œuvre. Hein. Ça, c'est... Moi, je m'en fous de moi. Moi, je veux vivre une vie de monsieur comme tout le monde, avoir des amis, heureux en famille, tout ça. Mais mon œuvre, c'est autre chose. Elle me dépasse.
Donc vous aimeriez laisser des traces?
J'aimerais, c'est ma
vous
fonction.
Espérez.
C'est ma fonction sociale. C'est comme ça que je fais mon travail. Mon travail, c'est de mettre en forme la notion abstraite du sentiment humain. C'est ça. On vit tous la même chose. Part du principe que depuis les temps préhistoriques, les sentiments sont les mêmes. Je pense qu'il y avait des gens chez les hommes préhistoriques, chez les Grecs à la Renaissance au XVIIIe siècle, des gens jaloux, rigolos, des pleutres, des bravaches, des gourmands, des rigolos, et tout ça. Ok, mais avec les années, les siècles, la manière de raconter ces émotions, quand mes filles sont amoureuses. Elles sont amoureuses exactement comme j'étais moi amoureux à mon époque. Mais simplement, ce qui est le déclencheur de cet amour ou ce qu'elles vont chercher ou la manière de la raconter va peut-être être légèrement différent et avec des mots légèrement différents de ceux que moi j'ai vécu. Quand je lis les poètes du 19e siècle ou d'avant ou que je suis confronté à des intelligences du Moyen-Âge, l'intelligence elle est la même. Simplement, ça va s'organiser autour d'autres préceptes, d'autres principes.
D'autres références,
voilà.
D'autres...
L'intelligence égyptienne, c'est la même que l'intelligence d'aujourd'hui. Ce qui change, en fait, c'est la manière. Et nous, artistes, si on a une fonction, c'est pas d'inventer des sentiments, c'est de formaliser au mieux nos propres émotions. Et comme il se trouve qu'on est on fait partie des oversensitives, c'est-à-dire ce que on appelle les ultra-sensibles, qui montent d'état d'extase à d'état de dépression profond, parce que plus tu montes haut, plus tu descends bas. On s'efforce de mettre en forme cette notion abstraite du sentiment humain. Et donc, éventuellement, tu l'as dit tout à l'heure justement, éventuellement, d'autres vont dire ah ben ce que vous dites là, comme vous le dites, ben c'est ce que je ressens. Mais les autres personnes qui vont ressentir la même chose, eux, ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le courage de dénoncer leurs propres vices et vertus. Dire je t'aime, c'est vraiment difficile la première fois, et même la deuxième, et même la quarantième.
Mais trouver les manières de le dire et de le formaliser, c'est très dur aussi.
Il faut arriver à se mettre en synchrone avec ces choses-là, parce que là, je vous ai lu des trucs machin. Des fois, c'est plus sérieux ou pas. J'en sais rien.
Mais c'est une vraie question qui se pose pour un artiste. C'est comment dire les sentiments que tout le monde connaît d'une manière peut-être pas différente, mais en tout cas qui pourra parler d'une manière différente, oui, à ceux qui vont entendre cette manière-là.
Eh ben, c'est pour ça que le mot poéim vient du grec. Le mot poète vient du grec poéim, qui veut dire fabriquer. Pour qu'on puisse juger de la qualité de quelque chose, il faut que cette chose ait été faite. C'est pas seulement le fait d'être émouvant qui fait de toi ému, qui fait de toi un poète, mais c'est le fait d'en faire quelque chose. Et dans la mesure où je fais, je transforme, je...
Et il n'y a pas de recette miracle, même si après toutes ces années de création, est-ce que vous pourriez dire quand même que vous arrivez à dire, et en ayant même cerné un certain périmètre de questionnement, de manière de faire pour vous, est-ce que vous arriveriez à dire, bah ça, je sais que c'est une bonne manière de le dire?
Non. De le dire, ben je dois t'avouer que quand je lis le bouquin La mécanique du ciel, c'est-à-dire une fois qu'il m'appartient plus, je trouvais que c'était bien, quoi.
Mais c'est intéressant.
Moi je l'ai lu, hein. Je sais ce qu'il y a dedans et je me dis, ah merde. C'est pas mal. Ouais.
C'est intéressant parce qu'il y a peu de. Quand on demande à un artiste que pensez-vous de votre œuvre, il va être parfois faussement modeste et parfois faussement modeste. Et dire, je ne sais pas, ce n'est pas
ça
à moi de juger.
Ça ne veut pas dire que j'aime tout. Et quand tu évoquais tout à l'heure le fait de me faire dépasser par mon œuvre, oui, quand je vois une œuvre et que je dis putain ça j'aurais bien aimé le faire, ben, c'est bien, voilà, c'est tout. C'est que ce soit moi qui l'ai fait ou pas moi, ça n'a pas d'importance.
Oui, si la postérité vous intéresse, c'est pas en termes d'ego et de moi, c'est plus. J'espère que mes textes, mes chansons vont continuer à
servir, à être un enclencheur, à être moi je me plais à avoir des relations avec des jeunes par exemple et qui qui vont peut-être trouver dans ce que je fais quelque chose qui les enclenche. J'ai fait pas mal de voyages en Australie. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont allés en Australie parce que ils avaient entendu parler de. Bon ben ça, j'ai l'impression que j'ai rempli mon job quoi. C'est. Mais il y a pas le l'ego surdimensionné qu'on attribue aux artistes. Oui, je l'ai, bien sûr.
Oui, est-ce que vous êtes par exemple sensible aux prix ou aux récompenses? Vous êtes chevalier des arts.
Ça me rassure, mais je cours pas après. Si je te racontais comment la Légion d'honneur m'a été remise, c'est mon père qui m'annonce ça un jour. Et il me dit voilà, j'ai lu au journal officiel que t'avais la Légion d'honneur. Quand t'arrives des trucs bien, tu pourrais le dire. Je savais pas, j'ai rien fait moi. Pourquoi tu me dis ça? Ben il dit, si tu l'as. Ça m'étonnerait, il me l'aurait dit quand même. Ben non, écoute, je vais juste te demander un truc. Quand on te la remettra, je te demande de porter la mienne. Alors j'ai dit, ben écoute, oui, mais enfin, faut déjà qu'il s'avère que ce, on me l'a donné. T'inquiète, à partir du moment où c'est écrit, tu l'as. Bon. Je laisse faire, le truc se fait. Là-dessus, mon père décède et 6 mois après. Et du coup, comme j'avais pas plus de besoin de cette médaille de la Légion d'honneur qu'autre chose, je laisse faire. Et puis un an et demi après, je décide de partir à New York et au moment de remplir les demandes de visa, etc. Mon avocate me dit. Ce serait quand même bien que vous mettiez tout ce que vous avez eu comme prix, récompense et tout ça. Je dis j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, le mérite national, les arts et lettres, machin. J'ai aussi la Légion d'honneur aussi. Oh, mais il faut qu'on me la remette pour que je puisse le dire. Ah ben il faut qu'on vous la remette. Ah ouais, mais bon, il faut que je trouve quelqu'un pour me la remettre maintenant. Donc j'appelle Stéphane Hessel. Et qui était le chef de réseau de mon père. Et je lui dis, écoutez Stéphane, je serais flatté si vous acceptiez. Oh, mais c'est à moi que c'est un honneur de remettre à Charlie du Couture, fils de Jean-Pierre, etc. Et puis donc il me remet cette Légion d'honneur. C'est un moment absolument éblouissant. Il a lu je sais pas combien de 200 vers d'Apollinaire. Par cœur, mes enfants étaient bouche bée. C'était un moment, une grande émotion, parce que donc il était le chef de réseau, ils avaient été arrêtés ensemble, enfin bon, etc. Il y avait du background derrière. Et donc cette médaille, elle signifie plus pour ça que pour la notion d'honneur, si tu veux. C'était plus pour ce que ça.
C'est plus le moment.
Voilà, c'est ça.
Que ce qu'elle représente en termes de reconnaissance.
Voilà.
De...
Et le fait que de n'avoir jamais été nominé aux Victoires de la musique, alors que j'ai fait 23 disques, plus de 1800...
25.
Non, j'ai fait 23 disques studio et 30 disques avec...
Ah, d'accord.
Plus des musiques de films, plus des... Blablabla.
Ok.
Mais en disque studio, c'est le 23e qui vient de sortir.
Et qui s'appelle Même pas sommeil.
C'est ça. Et donc... que je n'ai pas été une seule fois nominé aux Victoires de la musique, c'est tant pis pour eux, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est juste un peu grotesque, mais aujourd'hui ça me fait plus rigoler. Si on me donnait à choisir entre une Victoire de la musique et le public qui me donne l'occasion de continuer à vivre
jouer.
De mon travail depuis maintenant bientôt 35 ans, je doute pas un instant que beaucoup de gamins qui ont eu une Victoire de la musique échangeraient pour avoir ce que j'ai. Hein. Donc tant pis. Hein. Mais peut-être que c'est, tant que je tiens le coup, peut-être j'aurai un truc d'honneur.
Peut-être.
D'honneur.
Je vais vous poser une dernière question, Charles Élie Couture. C'est votre dernier album s'appelle Même pas sommeil. Vous continuez à créer. Vous nous avez fait le plaisir de lire quelques lignes de carnet. Vous nous parlez de votre appétit de retourner sur scène. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter de créer à un moment donné? Qu'est-ce qui fait que vous seriez plus disponible au frémissement d'une feuille? Et qu'est-ce que vous pouvez encore, en fait, apprendre et dans quelle mesure vous pouvez encore progresser, proposer de nouvelles choses?
Écoute, toute œuvre d'art n'est, tu viens de le dire, qu'une proposition. Il faut l'accepter comme telle. Quand je livre au public des choses que j'ai travaillées dans l'intime, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, les choses sont abouties. Donc qu'elles ont atteint un niveau montrable. Je reviens à mon histoire de cuisine. Si je sers le plat, c'est que je pense a priori qu'il est bon. Maintenant, la valeur, ce qu'on va accorder comme un intérêt à ce que je fais, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'un certain contexte. Les Américains appellent ça les 3W, les 3W, who, what, when. En français, les 3Q. Ça ne rentre pas. Qui, quoi et quand. Qui a fait quoi quand. Sous-entendu, une œuvre d'art, c'est pas seulement ce que c'est ce que ça représente. Donc la relation ou l'interprétation, l'intérêt qu'on va porter sur une œuvre d'art dépend de pas seulement de l'œuvre elle-même. Pour l'artisanat, oui, l'œuvre se suffit à elle-même et qui l'a fait, c'est pas très important puisque ce qu'on admire, c'est la réalisation. Mais pour une œuvre d'art, l'histoire, c'est-à-dire le contexte, ça s'appelle la totémisation de l'œuvre, qui transforme une œuvre. Pour ne plus être seulement un bout de bois sculpté avec un toucan et un crocodile, mais qui devient un totem, c'est-à-dire l'incarnation d'un dieu sur terre, ce qui est le cas de, prenons le cas de Van Gogh par exemple. Quand les gens voient un tableau de Van Gogh, ils voient jamais le tableau de Van Gogh. Ils voient le tableau d'un gars qui a jamais rien vendu de sa vie et qui est devenu une star incroyable après sa mort. Et ils se disent indirectement, ah, moi aussi ça peut m'arriver. J'exagère un petit peu.
Non, mais c'est vrai.
Mais on ne peut pas défaire le fantasme qui va avec la solitude, qui va avec la misère, la tristesse, etc., de certains hommes. Prenons un autre exemple. Quand on met un tableau de Braque à côté d'un tableau de Picasso, les gens vont être devant le tableau plus nombreux devant le tableau de Picasso que devant le tableau de Braque, parce que Picasso est beaucoup plus célèbre que Braque, et pourtant c'est Picasso qui a piqué le cubisme à Braque. C'est pas grave, il a fait des tas d'autres choses, et je disais que je l'admire par ailleurs, mais de ce point de vue-là, c'était clair. Je dis ça parce que je l'ai vu à New York. Il y avait 3 personnes devant le Braque et il y avait 15 personnes devant un tableau, le simili de Picasso. Et à la limite, comme ils ne connaissaient pas l'histoire de Braque, ils pensaient que c'était l'autre qui avait pompé. Voilà. Donc, quand on fait une œuvre, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui peut faire qu'un jour j'arrête? Ben, la maladie, la mort,
l'ennui. Pas l'absence d'envie.
Comment?
Mais pas l'absence d'envie. Pas l'absence d'envie. Ça viendra pas de. Ce sera quelque chose qui s'imposera à vous.
L'envie, ça va avec la joie. Et la joie, ça va avec une espèce d'énergie qu'on a en soi. Je sais que si je venais à perdre des gens qui autour de moi m'encouragent, me soutiennent, etc., c'est sûr que ça altérerait mes fondations. Voilà, et j'aurais moins envie de continuer à m'élever, parce que je fais ça autant pour eux, pour elles, au pluriel, que pour moi. Voilà.
Merci beaucoup, Charles-Élie Couture.
C'était la masterclass de Charles-Élie Couture avec Géraldine Mosna-Savoie. Attachée de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.